Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce dernier épisode de la saison 3 de On the Verge, clôturons en beauté avec Alexandre Contard, dit Monsieur. Esthète, influenceur dans l'élégance et le BDSM, Alexandre est maître dans sa relation exclusive et engagée avec sa soumise. Alexandre va définir la relation déesse, les codes, les rituels, la philosophie de ce courant du BDSM qui est la relation dominant-soumis qu'il vit quotidiennement, H24, 7 jours sur 7, avec sa soumise. De la difficulté d'être soi-même aux yeux des autres, de l'amalgame avec le pervers narcissique qu'on lui sert très souvent, de son rapport ambivalent au féminisme, bref, Alexandre va s'enfiler, répondre à toutes ces interrogations. Cet homme raffiné de 43 ans partage avec vous le coût de cette sexualité désormais assumée et épanouie. C'est une parole rare que vous allez pouvoir entendre. Merci infiniment à Alexandre Contard pour sa transparence et son discours. Je vous laisse donc avec ce dernier épisode de la saison 3 de On the Verge. Ne vous inquiétez pas, il y aura des épisodes cet été. Je vous en parle juste après notre échange avec Alexandre. Bienvenue dans cette nouvel épisode de On the Verge qui est un peu différent pour deux raisons. Parce que déjà, je vais vous voyer mon invité. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Je suis ravie de vous avoir en face de moi.
Merci, moi aussi.
Alors Alexandre, vous êtes ce qu'on appelle un maître. Mmh. Les gens vous connaissent sûrement sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Mmh. Mmh. Donc on va parler de tout ça. Et l'épisode sera un petit peu différent aussi parce qu'on va parler de beaucoup de sujets et que j'ai reçu des questions vous concernant sur la relation déesse. Et donc, je vais vous poser des questions d'auditeurs et d'auditrices et vous allez y répondre parce que les gens sont très, très curieux.
Très bien, ça me va parfaitement.
Super. Alors, Alexandre, est-ce que vous pouvez vous présenter juste en quelques mots?
Si je suis ici, d'ailleurs, c'est sous ma casquette de maître, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut...
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Je peux m'appeler maître. En général, on m'appelle monsieur. Dans ma profession, je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis influenceur sur les domaines de l'élégance et de l'érotisme. J'ai une marque de lingerie, j'ai écrit un livre et je traite principalement mon sujet, c'est le BDSM et la relation DS, le couple DS.
D'accord, donc vous êtes en relation avec une femme, mm-hmm. votre soumise, mm-hmm. Parce que ça c'est une question qu'on m'a posée si c'était un couple HH mm-hmm. ou HF, et c'est une relation exclusive.
Je suis hétérosexuel, exclusif et engagé.
Voilà. Waouh, wow. C'est un joli programme.
Mais c'est une question qui est fréquemment posée parce que on assimile souvent la pratique du BDSM à une multiplication des partenaires et on assimile ça aussi beaucoup au libertinage, ce qui n'a rien à voir. Le BDSM peut être une relation simple, exclusive, qui est très proche d'une relation de couple traditionnelle, sauf qu'il y a des mécanismes de relation qui sont un peu différents.
Oui, c'est ce que vous me disiez, c'est-à-dire que vous avez vraiment à cœur aujourd'hui de... déconstruire les a priori qu'on peut avoir sur le BDSM et en tout cas que les auditeurs et auditrices du podcast prennent plaisir à entendre une jolie relation d'amour, ce qui est
absolument.
Le cas dans votre couple au quotidien, mais qui effectivement n'est pas une relation dite vanille ou en tout cas plus commune. Elle a ses particularités,
absolument.
Elle répond à des codes, etc. On va commencer quand même par la question que je pose à tous mes invités. Mmh. Alexandre, monsieur, tout premier souvenir qui est lié à la sexualité ou à l'érotisme?
Le premier souvenir qui éveille ma sexualité, il y en a beaucoup en réalité. Moi, je suis un être sexuel. C'est quelque chose qui est important dans ma vie. Mais il y en a un qui revient tout le temps. Et alors, pourquoi celui-là? Je ne sais pas vous le dire. J'ai 42 ans, c'est important de le préciser. Et à l'époque, quand on est jeune, effectivement, bon, il n'y avait pas Internet. Donc, on trouvait les images ou les représentations érotiques là où on pouvait. Et moi, j'ai trouvé ça sur Canal+, mais alors pas dans le film pornographique de Canal+, puisqu'à l'époque, c'était réputé, mais plus dans le... C'était pas le Grand Journal, c'était une émission sur Canal+. Et il y avait comme invité Cyril Collard avec les Nuits Fauves.
Ok.
Il y avait un extrait des Nuits Fauves qui était diffusé d'un plan à trois, en fait. C'était du triolisme. Et j'ai vu ça. Je sais plus quel âge j'avais à l'époque. Mes yeux se sont écarquillés.
Ouais.
C'était artistique, c'était indépendant, c'était beau. On parlait pas de, c'était pas un acte de performance, c'était un acte d'amour. Il y avait trois personnes qui s'aimaient. Il y avait un enchevêtrement d'amour que j'ai pas compris à l'époque parce que j'étais trop jeune pour ça. Et je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Alors bien sûr, certains diront, bah oui, forcément, son premier souvenir, c'est un souvenir hors du commun, donc forcément, sa sexualité est hors du commun, mais pas du tout.
Il y a eu, à ce micro, il y a eu des souvenirs bien plus trash et les sexualités n'étaient pas...
Non, bien sûr.
Donc, mais en tout cas, c'est votre premier réveil.
C'est la première fois où j'ai regardé quelque chose en me disant, tiens, ça m'intéresse.
Ça me fait quelque chose.
Ouais, ça, il se passe quelque chose.
Parlez de sexualité librement chez vous ?
Non.
Non.
Non, c'est quelque chose qui n'est pas... je viens d'une famille tout à fait normale, j'ai une enfance heureuse, j'ai aucun trauma d'enfance. Non mais j'anticipe,
ouais, je
j'ai aucun trauma d'enfance, je suis quelqu'un d'équilibré. J'ai pas de soucis particuliers dans ma vie, j'ai pas de...
Vous n'avez pas vécu quelque chose qui aurait pu peut-être engendrer, comme certains aiment croire, des violences ou des choses qui auraient pu créer ça ?
Non, et je prendrais comme exemple un film justement qui parle du BDSM, qui est La Secrétaire. On présente le BDSM souvent comme...
C'est un vieux film.
C'est un vieux film, oui, mais on présente les personnes soumises ou les personnes dominantes comme des victimes de traumas qui projettent dans leur sexualité adulte des traumas qu'ils ont eu quand ils étaient plus jeunes. Je n'ai aucun trauma. J'ai juste des caractéristiques et des goûts particuliers.
Que vous assumez.
Et que j'assume aujourd'hui.
C'est surtout ça la différence.
À mon âge. Ouais. Qui sont pas forcément faciles à assumer parce qu'aujourd'hui, on a le malheur, entre guillemets, d'avoir des médias qui poussent une image folklorique du BDSM. Forcément, puisque ça fait vendre. Aujourd'hui, on propose des choses qui font vendre. Le BDSM, c'est pas uniquement, ça l'est, mais ça n'est pas uniquement des gens habillés totalement en latex ou en cuir, qui font des soirées, étranges dans des lieux étranges, c'est pas ça. Il y a aussi tout un autre pan du BDSM qui est intégré dans des vies de couple, de gens que vous côtoyez et vous n'avez aucune idée qu'ils pratiquent le BDSM parce que ça fait partie inhérente de leur vie.
C'est vrai que vous pouvez être monsieur tout le monde. Enfin, il y a quelque chose.
Mais je suis monsieur tout le monde. Je me fonds dans la masse. On ne me reconnaît pas. Et j'arrive. Et alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, parfois j'arrive en live et je fais bouh.
Ok. Faire une petite ellipse de temps. Est-ce que, en plus, bon, vous l'expliquez vous-même, il y a rien de très traumatique à raconter, donc voilà. Est-ce que vous avez un souvenir de votre première fois, Alexandre ?
Ah, bien sûr. Ma première fois est assez particulière. ma première fois s'est passée. Alors, les gens vont dire ah, mais forcément. Ma première fois s'est passée dans une pièce où il y avait du monde.
Ok.
Je crois que j'ai fait, je sais plus l'âge que j'avais, c'était à l'époque où est sorti l'album de Radiohead que tout le monde connaît, donc c'était il n'y a pas tout de suite. C'était dans une chambre, il y avait pas mal de monde, voilà, c'est, vous savez, les soirées copains, on dort
genre,
tous ensemble.
Lycée, vous arrivez
voilà,
à peu près
ça.
Ouais,
c'est ça, le lycée, et puis on dort tous, on a passé une super soirée, machin, et puis bah, nous on l'a fait, il y avait du monde à côté, fais pas trop de bruit, ça va bien se passer.
Ouais.
Voilà, c'est l'occasion qui s'est présentée.
C'était votre petite amie ?
Ouais. Moi j'ai toujours. Moi, c'est l'amour qui guide mes pas. Hein. J'ai toujours aimé toutes les femmes avec qui j'étais. J'ai jamais. Moi, il y a quelque chose que je déteste chez les hommes. Ce sont ceux qui ont besoin de dire je t'aime à une femme pour pouvoir les mettre dans leur lit. J'ai toujours été honnête. À certaines, j'ai dit que je les aimais pas. Ça n'a pas marché, hein, toujours. Mais quand je disais je t'aime, je pensais je t'aime. Voilà.
Okay.
En tout cas, j'ai toujours été honnête dans mes relations. Peut-être même un peu trop franc.
Donc, vous rentrez dans votre vie sexuelle active, donc voilà, lycée, jeune homme. Comment se passe après ce début de vie sexuelle ?
Je suis un explorateur. J'aime les expériences. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez que moi, je ne suis pas dans la possession, je suis dans le ressenti, dans vivre des expériences. La sexualité est un... J'ai cherché à vivre des expériences. Vivre des expériences avec des femmes différentes, vivre des expériences avec des pratiques différentes. J'ai essayé de tester des choses pour voir ce qui me convenait, parce qu'on peut pas dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelque chose tant qu'on l'a pas essayé. Ma seule limite a été la pratique homosexuelle. Je suis purement hétérosexuel, mais j'ai choisi d'essayer pas mal de choses pour me rendre compte de ce que j'aimais. J'ai essayé de trouver l'amour, mais ma plus grande difficulté a été de trouver une relation qui me permettait d'exprimer ce que j'étais vraiment au fond de moi. À savoir, et je le dis de manière très ouverte, je suis quelqu'un qui est axé sur le contrôle. Mmh. Dans notre univers, le BDSM, on parle du monde qui n'est pas BDSM comme étant le monde vanille. Dans le monde vanille, pour mes partenaires vanille de l'époque, j'étais un malade mental.
Alors, est-ce qu'on peut dire le mot qui commence par P ?
Oui, on peut. Alors, c'est très bien. On peut parler de pervers narcissique. C'est le grand questionnement. C'est quelque chose qui revient tout le temps en disant oui, les maîtres, les dominants, les gens qui sont dans le BDSM, les gens qui sont sur le contrôle sont des pervers narcissiques. C'est faux. C'est totalement faux. Un pervers narcissique et un maître ou un dominant sont fondamentalement opposés. Ça n'a rien à voir. La première chose d'un pervers narcissique, lui, ce qu'il veut, c'est un égoïste à la base. Mmh. Alors qu'un maître, c'est quelqu'un de très altruiste.
Mais je me permets de vous couper. Ce qui est intéressant, c'est surtout que le pervers narcissique le porte dans son appellation. Il est pervers.
Absolument.
Il souhaite faire du mal et détruire, etc. Alors que, de ce que je comprends, vous, votre objectif, c'est de faire du bien et de rendre heureuse ou heureux, en fonction des relations, votre partenaire.
Absolument. Y a une recherche à deux. Le BDSM et la sexualité liée au BDSM, c'est une recherche d'une sexualité qu'on mène à deux. On ne peut pas être dans le BDSM seul. Ce n'est pas une sexualité qu'on peut vivre seul. Pour revenir à la question que vous m'avez posée par rapport aux expériences que j'ai cherchées, ça se soldait souvent par un échec parce que quand on est adepte du contrôle, c'est quelque chose qui dans une relation vanille ne fonctionne pas. Surtout quand on est plus jeune, quand on a 19, 20, 25 ans, on a du mal à comprendre ce qu'on est et les autres ont du mal à comprendre ce qu'on est.
C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que vous avez compris assez naturellement, instinctivement, que c'était ce chemin qu'il fallait prendre?
Non, parce que quand on est profondément dominant et qu'on veut dominer une femme ou qu'on veut soumettre une femme, sans mauvais jugement, de manière très saine, c'est difficile à assumer. Soi-même, on se dit bah, « c'est bizarre, peut-être que je ne suis pas normal ». Et surtout, le sexe opposé vous fait comprendre que ton comportement est bizarre. En fait, le comportement n'est pas bizarre. On n'est juste pas sur la bonne planète.
Donc, ça crée un espèce, même pour vous, même si vous êtes assuré de ce que vous êtes à une vingtaine d'années, c'est compliqué d'être aussi ancré en soi, quoi.
J'ai passé ma vie à être beaucoup plus gentil avec mes partenaires que je n'aurais dû l'être. Beaucoup plus gentil parce que ma différence ne me permettait pas de me faire accepter. C'est-à-dire qu'on avait du mal à comprendre ce que j'étais. Donc, j'ai été beaucoup plus gentil pour que ça passe. Mais au final, ça ne marchait pas parce que le naturel revient toujours au galop.
Bien sûr.
Je vais vous parler plutôt du déclic le moment où j'ai compris. Que j'étais au bon endroit. Mon défaut, enfin, pour le monde vanille, c'est d'être dans le contrôle. Vous prenez ce même défaut, vous le propulsez dans l'univers BDSM et ça devient la plus grande qualité qu'on attend d'un maître.
Okay.
Le contrôle. Parce que les femmes soumises qui cherchent un maître ou un dominant sont pour chercher une personne qui est capable de les prendre en charge. C'est-à-dire qu'elles peuvent poser leur charge mentale, elles peuvent poser leurs problèmes, elles savent qu'il y a quelqu'un qui les cadre, qui les gère et qui les accompagne. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un transfert d'énergie qui se fait sur la personne qui maîtrise la personne soumise. Quand on est dans le contrôle dans le monde vanille, on a tout de suite des valeurs de base qui disent « oui, mais je fais ce que je veux ». Alors qu'en fait, ce n'est pas la question. En fait, tu fais ce que tu veux, bien sûr. Dans l'univers BDSM, une femme soumise n'est pas une femme sans caractère, elle fait ce qu'elle veut. Mais ce qu'elle veut, c'est donner son libre arbitre à quelqu'un qui va la prendre en charge. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un univers où j'étais à ma place.
Et c'est une partenaire qui vous a aidé à comprendre ?
C'est le regard des autres maîtres. Parce que j'ai beaucoup discuté avec d'autres maîtres et dominants. Petite parenthèse, un maître BDSM, des maîtres BDSM, que parce qu'une femme l'appelle maître.
D'accord.
Ça sert à rien de dire « je suis maître » si vous êtes célibataire. Vous êtes maître de rien du tout.
Tout seul chez vous.
C'est comme quelqu'un qui monte une société qui dit qu'il est directeur alors qu'il est auto-entrepreneur. C'est la même chose. Il est directeur de personne, il est directeur de lui-même. Un maître, il ne peut pas être maître s'il n'y a pas quelqu'un qui lui est soumis. Ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est de discuter avec d'autres dominants, d'autres maîtres qui me disent « mais attends, on parle librement », qui disent « mais attends, mais c'est super hein, ce que tu proposes. Nous, c'est la domination psychologique ». Et l'accompagnement psychologique, c'est, on va dire, dans notre univers, c'est quand même quelque chose de très prisé. Et ce que les femmes soumises cherchent.
Ok, ça c'est une question plus moi qui me la pose, mais vous, quand ça va pas ou quand vous avez besoin de décharger votre angoisse
ou... je le fais comme dans n'importe quel couple. En fait, comment dire, il n'y a pas un rapport de supériorité. c'est ce que je me tue à dire, c'est que une relation DS, donc dominant soumise pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est pas une relation égalitaire dans le sens où chacun a les mêmes tâches et doit faire la même chose. C'est une relation d'équité. Chacun accepte une place. Il y en a un qui est dominant, il y en a une qui est soumise, et l'inverse, hein, ça marche aussi.
Bien
l'inverse.
Sûr, c'est ce qu'on on disait.
Ça dans une relation dans homosexuelle aussi, on peut avoir, on connaît des gens qui sont des femmes lesbiennes qui sont dans une relation de DS, ça marche pareil. C'est juste, on choisit d'être D ou d'être S. Une fois qu'on sait où se positionner dans la relation, il y a des tâches et des rôles inhérentes à sa relation. Certes, une femme soumise va servir son maître. C'est-à-dire que si je demande quelque chose, j'attends de l'obtenir. Mais en échange, je suis engagé à 1000% sur l'écoute, sur faire attention, sur me faire en sorte qu'il ne lui arrive rien.
Et ça, c'est. Et, ça, et votre protection, c'est ce qu'elle attend.
Absolument. C'est extrêmement prenant. Le fait, par exemple, qu'il y a des gens qui. Il y a des femmes qui détestent qu'on les bombarde de messages. Et puis, il y en a d'autres dans le milieu BDSM qui attendent que ça.
Mmh.
Sauf qu'on ne nous le dit pas.
Est-ce que les mâles alpha sont tous des dominants comme vous ?
Alors, le mâle alpha, il y a un grand débat au sein de notre communauté par rapport au mâle alpha. Est-ce que le mâle alpha, ça existe vraiment ? Est-ce que c'est quelque chose de réaliste ? Moi, j'aime pas trop ce principe de mâle alpha parce qu'il y a une notion d'écraser l'autre. Un maître n'écrase personne. Je n'écrase personne. J'élève. Un maître élève sa soumise, en fait. Il s'occupe d'elle pour l'élever. Il y a une notion de développement personnel. Mon objectif, c'est pas qu'elle soit écrasée à côté de moi, c'est qu'elle soit le plus élevée dans ce qu'elle est, en fait.
Qu'elle soit sublimée dans votre rapport.
L'accompagner dans des difficultés qu'on ne peut pas traverser seule. Mais ça marche dans les deux sens. Sauf qu'on dit souvent que c'est la personne soumise qui choisit son maître, et pas l'inverse. Ce n'est pas un maître qui choisit sa soumise. Pourquoi ? Parce que la personne soumise va choisir un maître qui possède les caractéristiques qui lui manquent ou qu'elle aimerait bien travailler. Par exemple, si c'est de la confiance en soi, elle va choisir un maître qui a très confiance en lui. Je sais pas, qui a une approche, une certaine vision, et elle va choisir ce maître qui a cette vision de la vie qui va lui servir à elle. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est la personne soumise qui choisit son maître.
Ok, c'est incroyable.
C'est une toute autre approche que ce qu'on nous vend, finalement. Les maîtres ou les dômes ne sont pas, en tout cas les bons, ne sont pas des gens qui écrasent les gens.
Oui, c'est comme partout, il y a des bons, il y a des mauvais, etc.
Comme partout.
Ok, c'est très intéressant. Là, vous rentrez dans cette sexualité-là. C'est un chemin. Vous avez 42 ans, vous l'avez dit, donc il y a encore, j'imagine, pas mal de choses. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous poser quelques questions que les auditeurs et auditrices ont posées.
Bien sûr.
Alors, je pense que vous en avez répondu à quelques-unes. Une qui est revenue pas mal. Quel conseil pour quelqu'un qui voudrait essayer le BDSM ? Est-ce qu'on essaie le BDSM ?
Alors, pour essayer le BDSM, commençons par une vie vanille un peu pimentée. Ça sert à rien de vouloir absolument se jeter au milieu du grand bain sans avoir un peu appris à nager avant. Ça sert à rien de vouloir tout de suite taper les extras. Et il y a un cheminement, et encore aujourd'hui, je ne maîtrise absolument pas tout, et je ne cherche pas à tout maîtriser d'un coup. Je sais qu'il y a des pratiques que j'essaierai plus tard, quand moi je me sentirai prêt.
Bien sûr.
Parce que, où il y a même des pratiques dans l'univers BDSM, puisque le BDSM se définit aussi par toute une galaxie de pratiques.
Bah c'est ce que j'allais vous dire, parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais bon, généralement je mets ça dans les notes qui accompagnent le podcast, mais BDSM, c'est bondage, sadomasochisme.
Alors c'est bondage, discipline.
Ah pardon.
Bondage, discipline, sadomasochisme, et dans le D, on met aussi domination, soumission. Donc okay. Bondage, c'est tout ce qui est l'art d'attacher.
Oui, vous pratiquez peut-être pas forcément en plus.
Moi, par exemple, je vais le dire comme je pense, le shibari m'ennuie profondément. Le shibari, c'est l'art des cordes.
Japonaise.
Voilà, moi ça m'ennuie profondément parce que j'ai pas cette patience. Mais je respecte, c'est un art à part entière, je respecte ceux qui le font, je trouve ça très beau.
Ouais, c'est
mais
très
moi,
artistique, ouais.
De manière personnelle, c'est pas mon truc. Après la pratique du sadomasochisme, je pense que dès qu'on pratique les jeux d'impact, par exemple, et les jeux d'impact, ça commence avec une fessée.
C'est ça, les jeux d'impact, c'est les fessées, les cravaches, etc.
Voilà. Alors le BDSM soft, on commence en général par la blague, c'est ça fait rire l'univers BDSM, et j'en suis désolé, mais c'est souvent la blague qui revient, c'est la fessée pendant la levrette. On commence par là. Voilà, ça c'est la base. Mais quand je parle de fessée, c'est pas la fessée juste pour dire, hey, je suis là. C'est la fessée qui fait mal. C'est celle qui laisse une trace, qui fait relever la tête et dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ?»
Il faut mettre un peu après de d'arnica, quoi.
C'est ça. On en parlera si l'occasion se présente, mais il y a toute une portion de l'acte BDSM qui s'appelle l'aftercare, qui est un moment après, nous on appelle ça une scène, après un moment de jeu, où on s'occupe de l'autre. Mais l'aftercare, il est aussi bien pour le corps que pour l'esprit, c'est-à-dire prendre dans les bras, faire des câlins, peut-être mettre de la crème si on a eu mal.
Oui, donc redescendre un peu.
Ouais, refaire descendre la pression pour revenir à un état d'équilibre qui est très très important pour pas vivre un choc, pour pas que ça soit perçu comme une agression. On fait monter ça progressivement, il y a un point culminant, mais après quand ça redescend, on accompagne l'autre dans sa descente. On le laisse pas comme une mauvaise descente de drogue.
Donc les conseils pour... c'est ça, c'est un peu pimenter la sexualité vanille.
Le meilleur conseil que j'ai quand on a envie de se lancer dans le BDSM, j'ai sorti un jeu, et désolé, je cherche pas spécialement à faire la promo de ce jeu.
Que vous m'avez très gentiment offert et que je vais regarder.
Et j'espère que vous y jouerez peut-être. c'est un jeu qui permet, c'est un jeu de cartes, où on doit choisir d'abord si on est D ou si on est S, si on est dominant ou soumis. Vous posez ça sur la table et pendant que vous dînez, vous déjeunez, vous tirez des cartes et vous posez des questions. Il y a des cartes, donc D ou S avec des questions pour D et S. Mm-hmm. Et puis il y a des cartes DS avec des débats. Et toutes les questions qu'on a mises dans le jeu, il y a une centaine de questions, sont des questions qui permettent d'aborder le sujet du BDSM dans sa partie plus psychologique. Est-ce que, par exemple, tu serais prêt, on dit ça à son partenaire, est-ce que, par exemple, tu serais prêt, quel est l'instrument qui te fait le plus peur ? Un spéculum, un fouet ? On pose des questions et ça permet de tester un peu les limites. Un des actes numéro un dans une relation BDSM, c'est la discussion, bien sûr. D'ailleurs, moi, j'ai un principe, c'est le CCB. Consentement, communication, bienveillance.
Okay.
Mais la communication, c'est la base, parce que quand on se lance dans une véritable relation DS ou une relation BDSM, tout commence par un contrat. Mm-hmm. C'est un contrat qui n'a aucune valeur juridique, mais dans lequel on indique les limites de chacun. C'est quoi tes limites à toi ? C'est quoi mes limites à moi ? Où est-ce qu'on a envie d'aller ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Qu'est-ce qu'on s'autorise ? Qu'est-ce qu'on s'interdit ? Et on le fait ensemble.
Et inversement, qu'est-ce que je ne veux pas faire,
voilà.
Etc. Ok.
Dans le BDSM, le consentement est au cœur de nos préoccupations. Je prends un exemple très simple, la sodomie par exemple. Une femme qui dit dans son contrat, je refuse toute pratique de sodomie, elle est dans un espace de confiance, parce que si elle est avec un bon maître, et c'est ce qu'on espère, la sodomie n'arrivera jamais sur le terrain des négociations pendant l'acte. Mmh. On en parlera en dehors, mais on n'en parlera pas pendant. Donc, elle peut vraiment être dans un espace de confiance qui fait qu'il n'y aura pas un dérapage.
Un petit petit warning, genre ok,
voilà.
Je comprends. Vous avez parlé du déclic. Comment avez-vous rencontré votre soumise ? Parce qu'on voit souvent ces jolies chevilles sur votre Instagram.
Je propose à tout le monde de lire mon livre. Voilà. Je ne veux pas spoiler parce qu'en fait, c'est le cœur du livre que j'ai sorti, L'Emprise.
Donc, c'est une belle déclaration d'amour à votre soumise.
Ouais. Bah, ça raconte une histoire qui est relativement vraie. Tout n'est pas écrit non plus. Je garde
votre vie intime, bien sûr.
Voilà, une vie intime. Mais ce que je pourrais dire plutôt pour transformer cette question, je vais tourner cette question vers les gens qui nous écoutent. Comment on rencontre une soumise ou un maître ? Parce que c'est une question qui revient tout le temps. Moi, je la reçois tout le temps, cette question. Et le problème, c'est que à cette question, je réponds toujours de la même manière. Bah, de la même manière qu'on trouve l'amour. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de site dédié, c'est faux. Il y a des sites, mais ce n'est pas ça qui va vous faire trouver un bon maître ou un bon dominant, ou une bonne soumise.
C'est plus des sites de pratique.
Oui, c'est des sites de pratique. C'est-à-dire que si demain, vous êtes fan de la pratique du martinet, bah, vous allez sur un site, vous allez trouver quelqu'un qui donne des coups de martinet. Mais rentrer dans une véritable relation DS, moi, comment je ferais si je devais tout recommencer aujourd'hui? Je commencerais avec une vie vanille. En cherchant une personne qui a l'air sensible à la soumission ou à la domination. Et j'essaierai juste d'abord d'être bien avec cette personne et d'y aller pas à pas et de creuser cette relation pour l'emmener sur un terrain qui nous va bien. On n'est pas obligé de pratiquer tout le BDSM pour être bien dans le BDSM. Mmh. Si, par exemple, cette personne n'aime pas les jeux d'impact, mais elle préfère juste être attachée, bah, ça peut être suffisant pour avoir une belle relation maître soumise.
Ok. Comment tester en étant célibataire et de façon safe ?
En étant célibataire,
bah,
le BDSM, c'est pas possible, ça se pratique pas, c'est pas comme le libertinage. On fait souvent l'amalgame entre les deux. Le libertinage et BDSM, c'est deux choses différentes. On peut pas aller dans un club BDSM et pratiquer le BDSM comme le libertinage. Alors, on peut pratiquer dans certains clubs BDSM, par exemple le masochisme, c'est-à-dire que vous aimez avoir du plaisir avec de la douleur, ça existe. Mm-hmm. Des gens qui aiment ressentir des coups de martinet ou des coups de fouet parce que ça les excite et parce que ça libère des endorphines et qu'ils accèdent à un état de lâcher prise totale qu'on appelle en général le subdrop. C'est le moment où en fait vous avez tellement d'endorphines dans votre corps que votre corps il lâche. Et ça, on peut l'obtenir. Il y a des gens qui sont accros à ça et qui vont se faire fouetter pour obtenir ça. C'est une pratique comme une autre. Après, tester. Il faut trouver un ou une partenaire d'abord. Mmh. Ça ne se fait pas tout seul. Ça peut commencer sur les réseaux sociaux, rencontrer des gens, puis après, ça se traduit. Après on passe du virtuel au réel, mais c'est très, très difficile.
Ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'effectivement, vous, j'espère que les auditeurs et les auditrices le comprennent bien ainsi, c'est que vous, votre rapport DS, il est global. Quoi. Ce n'est pas juste dans votre chambre à coucher avec votre compagne, c'est vraiment un lifestyle. Pardon,
non, c'est vrai. Il y a deux manières d'approcher le BDSM. Il y a le BDSM de jeu et il y a le BDSM de vie. Et l'un et l'autre sont acceptables. Il n'y a pas de, mais il n'y a pas de chose qui est meilleure l'une que l'autre.
Oui, c'est chacun.
Il y a des gens qui vont avoir envie de jouer dans la chambre, et puis une fois que c'est terminé dans la chambre, on reprend nos vies normales. Une femme, par exemple, qui se veut soumise au lit, mais qui dans la vie de tous les jours a pas envie d'être soumise. Mm-hmm. Tout à fait acceptable. Et puis il y a des gens qui vivent dans une relation qu'on appelle H24, où là, le BDSM il est dans tous les aspects de la vie, et on retrouve l'accompagnement quotidien. Là, on est quand même à un niveau beaucoup plus avancé. Et ça, oui, c'est un lifestyle.
C'est aujourd'hui ce que vous avez, vous, avec votre compagne, où effectivement, ça vous accompagne dans tout ce que vous faites.
C'est ça. C'est ça parce qu'en fait, ça articule le couple. Ça articule le couple, le BDSM, on va dire, la relation DS, ça articule le couple parce qu'il y a des mécanismes qu'on ne retrouve pas dans le monde vanille. Alors, dans une relation où l'homme est dominant, ça va s'apparenter un peu au patriarcat. Dans une relation où la femme est dominante, plus au matriarcat, ça existe. Des couples où la femme est dominante et l'homme est soumis, ça existe. Et il ne faut pas le juger. Il ne faut pas juger les hommes soumis parce que la personne soumise, que ce soit un homme ou une femme, est une personne qui offre. Et il faut toujours valoriser les personnes qui offrent et qui donnent. On a tendance à croire que les personnes soumises sont des personnes faibles et sans caractère. Ce n'est pas vrai. Les personnes qui sont soumises sont des personnes qui sont dans une dévotion totale face à la personne qui les domine. Et il y a beaucoup d'amour en général dans un couple DS H24. On est sur de l'amour beaucoup plus extrême. On parle de sexe extrême. On pourrait parler d'amour extrême. On parle de dévotion dans notre univers. La dévotion, quand même, c'est un mot fort. On en est là, oui, et c'est quelque chose qui est totalement accepté, mais ça amène aussi des responsabilités de l'autre côté.
Bien sûr.
De la dévotion, ça s'obtient pas gratuitement et n'importe comment.
Oui, puis c'est sur du temps, j'imagine, que ça se tisse.
Du temps, c'est... Tout le monde en manque. Tout le monde, aujourd'hui, manque de temps pour développer sa relation. Malheureusement, c'est la base de toute relation, qu'elle soit DS, qu'elle soit vanille ou BDSM. Il faut du temps. Et on peut pas accéder à ce point culminant dans une relation BDSM sans prendre le temps. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Les gens pensent que ça va très très vite, qu'une fois qu'on a mis un coup de cravache et voilà, on est dans l'univers BDSM, non. Et on a des cérémonies, la remise de collier par exemple. La remise de collier, c'est quelque chose qui arrive au début, enfin pas forcément au début, c'est quand on s'engage réellement avec quelqu'un. C'est un peu comme une remise de bague ou d'un
anneau, quoi.
Voilà, c'est la même chose. Il y a une symbolique, on a des bijoux d'appartenance, il y a tout un protocole.
C'est très ritualisé. Hein.
Oui, le rituel, il est au cœur de notre univers. Un rituel, il a une vocation, c'est de rassurer. Les gens qui sont dans le BDSM cherchent une relation rassurante. C'est très rassurant, par exemple, pour une personne soumise de savoir qu'elle a un maître qui s'occupe de plein de choses. Okay. Parce que c'est entendu. Comme c'est très rassurant pour un maître de savoir qu'il a un ou une soumise qui s'occupe de plein de choses. Et c'est entendu. Et tout ça, ça a besoin d'être ritualisé avec des choses qui nous rappellent que c'est rassurant pour un humain, les habitudes. D'ailleurs, par rapport au... quand on grandit, quand on est enfant, et moi le premier, moi j'aime manger à heure fixe. C'est hyper rassurant. Je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a des gens que ça rassure.
Bien sûr.
Je ne dis pas qu'on est tous pareils. Je dis juste que pour cette partie des gens qui sont comme ça, c'est hyper rassurant comme relation. Et on vient chercher ça dans les rituels, par exemple.
Oui, c'est confortable, quoi. On se sent bien parce qu'on... Ça, en tout cas, ça répond à nos besoins profonds.
Oui, et c'est pas mieux ou moins bien qu'une autre relation. C'est juste, ça correspond à
soi.
À soi ou à une personnalité qu'on peut avoir.
Est-ce que dans un couple comme le vôtre, DS, est-ce qu'on peut parler de concessions? Est-ce que vous êtes le genre de couple qui fait des concessions?
Tout le temps. Bien sûr, on fait plein de concessions. On s'adapte à l'autre. On n'est pas toujours d'accord sur tout.
Vous me disiez que les disputes, elles se règlent avec une fessée.
Mais si je dis ça face à une femme féministe, elle va me lyncher. Moi, je vais le dire naturellement aujourd'hui à toutes les femmes féministes, extrêmement féministes, et j'en connais certaines dans mon entourage pas trop proche. je leur souhaite d'être heureuses. En fait, il faut souhaiter aux autres d'être heureux. Il faut arrêter de regarder dans l'assiette de l'autre en disant c'est mal. Si la personne est heureuse, il faut la laisser tranquille. Si, en fait, dans le BDSM, tout est consenti. Donc, quand vous voyez un couple BDSM qui vous dit « Nous, c'est comme ça, notre schéma de fonctionnement, il est comme ça, et même si vous trouvez ça bizarre, on s'en fiche, c'est consenti. »
Nous, on est OK, en fait, avec
voilà,
ça.
Voilà, c'est consenti. Il y a, par exemple, je connais un couple qui vit son BDSM où tous les soirs, madame attend monsieur à genoux, à côté de la porte d'entrée, quand il rentre, pour lui mettre ses pantoufles. Vous allez dire « Oh là là !» Quel c'est le patriarcat, c'est le patriarcat, c'est scandaleux. On s'en fiche. En fait, eux, ils sont heureux. Qu'est-ce que ça peut faire?
Oui, c'est ce que vous disiez. Vous n'avez pas du tout envie de... Enfin, vous voulez un message de paix là-dessus, quoi. Ouais. Vous voulez vraiment dire que tant que les gens sont heureux dans leur couple,
bien sûr,
et dans leur sexualité et dans leur épanouissement...
On s'en fiche.
On s'en fiche.
Quand vous passez la porte du privé, quand on sort de l'espace public, je suis féministe dans l'espace public. Je ne le suis pas dans l'espace privé. Parce que c'est deux univers différents. Il est normal qu'une femme aujourd'hui ait les mêmes droits qu'un homme.
Les mêmes salaires, la même chose.
C'est normal. On parle d'humain, pas de problème de genre. Une fois qu'on a fermé la porte de la maison et qu'on n'est plus dans la sphère publique mais dans la sphère privée, on s'en fiche. Ça ne regarde plus personne. Donc si, par exemple, on a un schéma de fonctionnement, je parlais de ce couple justement, qui a un schéma de fonctionnement bien à lui, et après, le problème, c'est que pour les gens qui prêchent une certaine mentalité, c'est toujours de ramener des gens dans leur cause. Aujourd'hui, les gens qui sont dans le BDSM, il faut comprendre une chose, c'est que c'est des gens qui ne cherchent pas à être détournés de leur cause parce que c'est quelque chose d'ancré en eux.
Oui, il n'y a personne à sauver, quoi.
Voilà, il ne faut pas les sauver parce qu'ils se sont déjà sauvés en trouvant cette sexualité.
Bien sûr.
C'est très difficile d'accepter, de se dire « Ouais, en fait, moi, je suis là-dedans. » Et de se dire à soi-même « C'est ça qui me convient. » Moi, quand je vous dis les yeux dans les yeux, je suis un control freak, je l'assume totalement.
Oui, alors c'est pas forcément
alors que
facile.
On va me dire, oulala, attends, alerte au pervers narcissique. Alexandre Contard, moi je savais, j'ai vu son compte Instagram, il est bizarre. Je suis la personne la plus simple là-dessus possible. Dans ma vie intime, ce que je fais me regarde. Et si la personne avec qui je suis, ça lui convient, alors et si on est heureux, alors ça va aller pour moi. Vous inquiétez pas pour moi.
Et c'est, vous le dites hein, sur votre compte Instagram et même dans votre vie, c'est vous êtes OK avec ça tout le temps. Vous ne le cachez pas.
Il faut bien qu'il y en ait qui se sacrifient. Hein.
Moi, vous ouvrez la voie, Alexandre. Merci.
Non, c'est... je suis quelqu'un de franc. Je ne saurais pas me cacher. Je ne saurais pas me cacher. Alors, quitte à ne pas me cacher, autant qu'on ne voit que moi.
Oui, voilà. Je comprends.
Par contre, là où je suis content, c'est que ça permet de révéler certaines personnes. Moi, j'aurais aimé qu'un jour avoir un exemple pour plus jeune me dire que j'étais pas si bizarre que ça, en fait. Parce que quand on est... allez, c'est le moment, on va sortir les violons, mettre une musique un petit peu douce et faire un petit retour en arrière. Ça m'aurait permis de faire un raccourci dans ma vie amoureuse et de trouver plus vite, ou en tout cas de me sentir plus vite heureux et pas d'être dans l'expérimentation de où est ma place. C'est un modèle, aujourd'hui, la relation DS, le BDSM, c'est un modèle qui n'est pas proposé dans les alternatives de sexualité.
C'est vrai.
On propose plein de choses, plein de choses.
Oui.
Mais jamais le BDSM expliqué comme je l'explique, en disant que on peut avoir une relation très saine avec des individus très sains, on n'est pas dans des trucs
Oui, dans
bizarres.
Des donjons avec du vinyle partout.
On peut si on veut, parce qu'on a un kink.
Mais c'est pas votre quotidien.
Non, c'est pas mon quotidien, même si, par exemple, moi j'ai un kink des chaînes, j'aime l'acier. J'aime le contact de l'acier, j'aime entendre le bruit de l'acier, j'aime le claquement de l'acier, j'aime ça. C'est propre à chacun.
Bien sûr.
Moi, il y a des choses que j'aime pas du tout. À partir du moment où, en fait, la tolérance, c'est commencer par accepter la différence de l'autre. Tout le monde en parle, personne ne le fait. Et souvent, ceux qui se disent les plus tolérants ne le sont pas. Je pense que si on m'avait proposé ce modèle de BDSM plus jeune ou avant, où on m'avait montré des choses, pas forcément dans la pratique, des coups de fouet, ou juste de m'expliquer de manière psychologique comment
ça fonctionne.
Parce que
vous restez très discret là-dessus, sur votre pratique réelle.
Et je montrerai jamais rien parce que c'est pas le fond du sujet. La pratique, on s'en fiche un petit peu en fait de ce que je fais dans le privé. Ça ne concerne que moi. Et j'ai pas besoin de le montrer puisqu'en fait, il y a autant de BDSM que d'individus. Il y a autant de BDSM que de couples. BDSM. Personne pratique de la même manière. Il n'y a pas d'uniformisation. On n'a pas de code BDSM qu'on pose sur la table en disant attention, article 25, tu ne feras pas.
Alors là, tu as mal mis ton string en cuir, Michel.
Exactement. Si, par exemple, dans un couple, il y a une scène, les gens ont un kink. Alors, pour ceux qui ne savent pas, kink, c'est une envie, un désir, une passion secrète. On n'a pas vraiment de traduction
préférence,
en français.
Préférence. Ouais.
Pour des jeux de rôle, par exemple. Se déguiser en chien et en chat. Tant mieux, en fait. Il faut juste l'accepter, mais c'est assez rare d'accepter ce genre de choses. Un de mes chevals de bataille, mon cheval de bataille, c'est de rendre cette sexualité, pas dans ses pratiques, mais dans ce qu'elle a de plus fondamental, dans ses fondements, de la rendre acceptable. Aujourd'hui, moi, j'aimerais pouvoir dire, au même titre que quelqu'un dit, voilà, moi, je suis transgenre, ou je suis hétérosexuel. Alors, bien sûr, c'est pas la même chose, c'est une orientation sexuelle, mais dans le fait d'accepter
dans la définition de soi.
Voilà. Mm-hmm. Dans ma définition, moi, je suis un pratiquant du BDSM, je vis une relation BDSM.
Et c'est OK.
Et c'est OK. Et les gens me regardent pas en me disant, ah ouais. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Moi, je sais que, alors, je peux en parler tant qu'on y est. L'heure ne tourne pas, j'ai un peu de temps. Dans ma vie professionnelle d'avant, j'ai perdu. Moi, j'ai changé de métier aussi parce que j'ai perdu une grande partie de ma clientèle et de ma vie d'avant. Mmh. Et j'ai fait ce choix.
Parce que les gens ont fait des raccourcis.
Bien sûr. Et puis, au-delà de ça, les gens veulent pas traîner avec quelqu'un qui affiche ça. Mmh. Les gens veulent pas dire je le connais ou on se fréquente ou parce que par porosité, on se dit ah, toi aussi t'es comme lui. Pas forcément, mais je pense qu'il faut avoir une vraie confiance en soi pour dire bah non, on est tous différents, c'est pas parce que je côtoie quelqu'un qui est comme ça, je sais que j'ai perdu des amis à cause de ça.
Depuis combien de temps exactement vous êtes vraiment bien ancré dans ce BDSM?
Alors c'est une question qu'on me pose beaucoup et je peux pas y répondre, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me suis toujours posé la question de à quel moment j'ai basculé, mais en fait dans ma pratique pure et dure, je me suis toujours défini comme étant dominant.
D'accord.
Vous savez, vous avez une pratique sexuelle, vous avez des actes sexuels avec des femmes, et puis on vous tape sur les dents en vous disant c'est pas comme ça que ça doit arriver, et puis bah, vous ne comprenez pas, donc vous le ravalez, vous le rangez, mais vous l'êtes quand même. Et en fait, moi je me définis, moi j'ai été dominant depuis mon premier rapport sexuel, depuis vraiment mon tout premier rapport sexuel.
Et le rapport avec une emprise psychologique en plus, enfin en tout cas, le pousser en dehors de juste l'acte sexuel.
Non, ça c'est. Lisez l'emprise.
Ouais.
L'emprise là, dans le livre, j'explique ça.
Je vais dire ça.
Et comment ça s'est construit, que j'ai voulu facile. J'ai voulu facile. C'est pas un cours magistral. J'explique juste comment ça s'est passé dans ma vie.
C'est un chemin en tout cas.
Ouais, bien sûr. Je pense que toutes les autres personnes qui sont passées derrière ce micro vous ont raconté leur cheminement. C'est exactement la même chose. Il y a un cheminement sur sa sexualité. Et la sexualité d'un individu, d'un homme ou d'une femme à 30 ans, c'est pas la même sexualité qu'à 40 ou qu'à 50.
Complètement.
En espérant que ça dure le plus longtemps possible.
Je vous le souhaite aussi.
Mais un exemple, tiens. Ça, j'ai envie d'en parler parce que ça, c'est quelque chose dont on parle jamais dans le BDSM. La disponibilité sexuelle.
Mm-hmm.
J'entends quoi par là? C'est que dans une relation DS, la personne qui domine ou le maître peut disposer librement de la sexualité de sa soumise. Je m'explique encore plus. C'est-à-dire que s'il a envie d'un acte sexuel quand il veut, il l'a quand il veut.
Ok.
Il n'y a pas à demander. C'est acquis. Et alors, ça peut choquer beaucoup de gens parce que j'entends déjà certaines femmes qui vont dire « Oui, mais je dispose de mon corps comme je veux. » Non, pas dans une relation DS. Dans une relation DS, c'est consenti que la personne qui domine prend quand elle veut. Alors, il donne, forcément, on donne aussi, c'est pas que dans un sens. Mais il n'y a pas de négociation, genre, ce soir, j'ai
pas
mal
ce
à
soir.
La tête.
Okay.
Sauf, il y a la limite de la santé. C'est-à-dire qu'il incombe au maître ou au dominant de sentir la personne, savoir si elle est dans de bonnes dispositions et d'être suffisamment intelligent pour un moment où elle n'est pas disposée, où ça ne va pas.
Ça, c'est de l'empathie, quoi.
C'est de l'empathie, voilà, c'est de l'empathie. Mais par contre, la question de la disponibilité sexuelle est quelque chose qui est propre au BDSM. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans l'univers vanille et qu'on peut réclamer ce qu'on veut au moment où on veut. Je prends un exemple. Les hommes sont souvent, de manière globale, très enclins à réclamer des fellations. C'est quelque chose qui est souvent demandé par les hommes et qui n'est pas toujours consenti par les femmes parce qu'elles estiment que c'est un pouvoir de pression sur eux. J'ai vu ça souvent dans des couples vanille. Ça arrive. Après, il y aura toujours quelqu'un pour me dire le contraire, mais...
Non, mais bien sûr.
Mais c'est moi qui ai le micro.
C'est votre expérience, et puis bien sûr, c'est votre constat.
C'est mon constat. C'est mon constat parce que dans le BDSM, c'est quelque chose qui se... a volonté. Bon, a volonté dans ses capacités physiques, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible. C'est possible. Souvent, dans les relations vanille, c'est souvent proposé par madame ou...
C'est un échange.
C'est un échange, voilà. Sauf que là, ça peut être unilatéral.
D'accord.
Et c'est comme ça, et c'est OK.
Mais est-ce que votre soumise peut vous demander aussi si elle a envie ?
Bien sûr.
D'accord.
Bien sûr. Après, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est l'homme qui demande et pas toujours entendu.
Satisfait.
Pas toujours, ou pas comme il veut. Là, c'est pas tout à fait pareil. Après, il faut aussi voir que quand on est dans un couple DS, il y a des pratiques qui se mettent en place ensemble et on sait ce qu'aime l'autre. Et c'est comme dans n'importe quel couple, en fait.
Oui, bien sûr.
Mais cette disponibilité sexuelle, elle est très importante parce que je vois beaucoup d'hommes, et je discute avec beaucoup d'hommes sur mon compte Instagram, réclamer du sexe et ne pas toujours en avoir. Et être un peu dépendant de la bonne volonté de madame. Et ça, c'est quelque chose qui se règle dans le BDSM, à savoir, c'est consenti. Et ça règle énormément de frustrations et de problèmes. Parce que quand on sait qu'on peut avoir quand on veut, on ne demande pas quand on veut. On demande peut-être un peu moins, puisqu'en fait, il n'y a pas le « est-ce que je vais avoir ?» Ça retire beaucoup de problèmes.
Ah, bien sûr, il n'y a pas la projection du oui, du non, etc. Il n'y aura pas la frustration du non, puisque de toute façon, ce sera oui.
Oui.
Ouais, je comprends.
Le non est un mot qui a pas trop sa place. Pourquoi ? Parce que dans un acte sexuel ou dans la vie de tous les jours, le non, il peut pas exister puisqu'il y a eu un contrat avant. Donc tout ce qui est non a déjà été mis dans le contrat. Donc une fois que c'est mis dans le contrat, on pose même plus la question.
Donc le
on n'est que sur du oui.
C'est ça. Donc celui qui fait attention à sa soumise ne lui posera pas la question.
Il peut arriver parfois qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Et j'en ai pas encore parlé. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans un acte sexuel où il y a un truc qui se passe pas bien. Un exemple bête. Allez, un exemple tout bête. Madame a une crampe. Non mais.
Oui, ça,
et il faut arrêter ce qu'on est en train de faire parce qu'on est dans des jeux, peut-être des jeux de restriction. On peut très bien avoir. On peut utiliser des menottes, on peut utiliser des.
Que sont des jeux de restriction ?
Tout simplement, on va vous attacher au lit. Enfin, ce qu'on voit typiquement dans les films grand public, qu'on peut voir sur Netflix. Sauf qu'il existe quelque chose, et d'ailleurs, je vais faire un parallèle avec 50 nuances. Ceux qui ont vu le film ou qui ont lu le livre savent qu'il y a une scène dans 50 nuances où Anna, donc l'héroïne, prononce son safe word. Son safe word, c'est le mot de sécurité. C'est le mot de sécurité, et en général, il y en a deux. En général, il y a un premier mot de sécurité, elle, c'est rouge, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, c'est les couleurs. Orange, c'est en gros continue, mais pas plus, là, on atteint une limite, et rouge, on arrête. Et il y a quand même cette limite de, s'il y a quelque chose qui se passe mal, il y a le safe word où on arrête la pratique sexuelle, où on arrête ce qui se passe. Chaque couple définit son safe word, ça doit être un mot particulier qui ne doit pas être dans la conversation, idéalement, pas un mot de conversation traditionnel. D'ailleurs, c'est quelque chose d'ultra personnel, à mon sens, le safe word. Je ne pourrais pas vous dire quel est le mien, parce que c'est un peu des secrets de couple.
Oui, bien sûr.
Mais c'est des mots qui aussi évitent des débordements ou des problèmes. Donc, pas besoin de non, mais s'il y avait quand même un problème, il y a un safe word pour arrêter ce qui est en train de se passer. On parle de restriction, c'est attaché à une barre. Et je parlais de 50 nuances parce qu'à un moment, elle le dit et Christian continue. Et ça, par exemple, c'est une aberration quand on est dans l'univers du BDSM. Quand le safe word est prononcé, il faut arrêter tout de suite.
Ça n'arriverait pas en vrai.
En vrai, ça peut pas. En vrai, quelqu'un qui fait ça, là, c'est un pervers narcissique. Là, c'est quelqu'un qui est dangereux, c'est quelqu'un de toxique, qui est en train de détruire la personne qui est en face d'elle. Et j'en profite pour passer un mot à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous avez défini un safe word, un mot d'arrêt, et qu'il outrepasse cette règle ou qu'il outrepasse une règle du contrat, il faut partir. Il faut partir parce que c'est des limites à ne pas dépasser. C'est des indices qui vous disent que vous n'êtes pas avec une personne qui respecte cette pratique. Et il ne faut surtout pas rester. Parce que quand on ne s'arrête pas, quand le safe word est prononcé, c'est un acte lourd pour une personne soumise. Prononcer son safe word, on ne le fait pas tous les 4 matins. Il y a des couples où ça arrive quasiment jamais. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que la personne, le maître ou le dominant, n'a pas fait attention. Il n'était pas à l'écoute. Un bon dominant, un bon maître est très attentif à sa soumise.
Vous n'êtes jamais dans le lâcher prise.
Non, moi, j'aime pas ça. Mais ben non, moi j'aime le contrôle. Il y a des gens qui disent, mais c'est pas fatigant quand même de toujours vouloir tout contrôler?
Je vous le demande, ouais.
Non, je préfère être dans la fatigue que dans l'insécurité. C'est une vision différente de la vie. C'est-à-dire que là où vous chillez, vous êtes décontracté, moi si je contrôle pas, je suis dans l'insécurité, je suis dans l'angoisse et j'arrive pas à me détendre.
Et c'est là où effectivement vous êtes pas bien.
Là où je suis détendu, c'est quand je contrôle tout et je sais que j'ai un contrôle total. Je dis, ok, ça va. Là c'est bon, je peux souffler.
Et vous êtes bien.
Et je suis bien.
Est-ce que vous pouvez me raconter, On parlait des kinks tout à l'heure, mais voilà, des choses qui vous ont un peu... Alors effectivement, vous, votre degré de connaissance et j'imagine de ce que vous avez pu voir à travers vos rencontres, etc. C'est assez important. Enfin, vous avez vu des choses assez intenses, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans votre parcours du BDSM, de pratique, de soirée, de thématique, de kink? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez partager? Sans jugement, évidemment.
Non,
mais...
je réfléchis, j'essaie de balayer un peu tout. J'ai vu tellement de choses. Le BDSM m'a appris la tolérance. Et vraiment, je vais m'arrêter là-dessus. Ça m'a appris la tolérance. J'ai vu tellement de choses étranges. Mm-hmm. J'ai vu tellement de choses, pour le commun des mortels, j'ai envie de dire bizarres. On dit, mais c'est... Et avant d'être là-dedans, je me disais, mais non, mais les gens sont malades. Mais ils sont trop loin, c'est pas possible. Et une fois qu'on rentre là-dedans et qu'on commence à comprendre ces gens, qu'on commence à comprendre qu'on est dans assumer pleinement des choses qu'on n'oserait pas dans sa vie de tous les jours.
J'ai vu sur votre compte, effectivement, certaines séances photos avec des maîtresses, je crois, qui avaient des tenues, effectivement... voilà, c'est comme vous le dites, pour le commun des mortels, c'est vrai que c'est une nourriture pour les yeux qui est peu commune, donc c'est très artistique parce que tout ce que vous faites est très élégant et c'est vraiment un bel univers. Mais c'est vrai qu'on, voilà, ça pose question, quoi.
Quelque chose de très simple. Moi, j'ai eu une discussion avec un couple qui a des pratiques assez hard, et je vais en profiter pour les nommer parce que je les adore. C'est Wan et Léa. Vous les trouvez sur...
Je mettrai l'Instagram.
Ouais, vous les trouvez, c'est un couple que j'adore. Ils sont très très beaux, ils sont très inspirants. Et je ne peux que les citer à chaque fois parce que ce qu'ils proposent en termes de contenu est très pédagogique, beaucoup plus pédagogique que moi. Donc je les cite souvent. On avait une discussion assez engagée sur l'urologie. Le fait d'uriner sur quelqu'un. Moi j'avais un blocage psychologique. J'avais du mal à... C'était un moment ça, puis j'avais du mal à comprendre
l'intérêt.
Et en fait, l'intérêt, il est double. Il y a un intérêt pour la personne soumise et un intérêt pour le dominant. Pour la personne soumise, c'est l'humiliation totale. C'est une recherche d'humiliation. Mais la mécanique psychologique d'une humiliation aussi intense, c'est quoi? C'est de toucher tellement le fond, on a été tellement bas, qu'on ne peut que remonter. Et ça donne en fait cette sensation de, une fois qu'on a été humilié jusqu'au plus bas, parce que uriner sur quelqu'un, c'est quand même une humiliation totale. C'est...
Ah oui, c'est souiller.
D'ailleurs,
la personne.
Je vois vos yeux là, c'est total. C'est très très humiliant. Et pour la personne qui domine, c'est un sentiment de toute puissance totale et d'humiliation totale.
Ah bah, de transgression absolue.
Voilà, parce que c'est quelque chose, la propreté animale, parce qu'on est des animaux, c'est ce qu'on nous apprend au tout début quand on est petit, que vous seriez capable d'uriner en plein milieu de votre maison. Psychologiquement, ça va bugger quelque part.
Le corps, il peut pas.
Corps, il peut pas. Il y a un bug. Mais alors, l'urologie, effectivement, il y a des mécanismes. En fait, il faut envisager BDSM avec des mécanismes psychologiques. On peut pas être juste sur la pratique. Parce que ça, c'est, on fait ça quand on est jeune. Quand on a 20 ans, on réfléchit pas, on fait une soirée, on essaie des trucs et on se rend pas compte. Quand on vieillit, quand on prend maturité, on se dit, OK, chaque acte a une incidence psychologique. Et c'est ça qu'on va chercher. Et les gens qui pratiquent, par exemple, l'urologie, cherchent cette humiliation, en tout cas les personnes soumises, cette humiliation extrême, parce que ça provoque des sensations dans leur corps, des sensations dans leur cerveau, parce que le premier organe sexuel, c'est le cerveau, qui sont tellement intenses qu'ils arrivent à lâcher prise. C'est-à-dire qu'ils finalement, je ne veux pas dire qu'ils sortent de leur corps, mais on est dans un état de conscience altérée, en fait. Et c'est un peu ça, le subdrop, c'est un état de conscience altérée.
Est-ce que vous pensez que pour en tout cas avoir ces relations DS, il faut être intelligent? Quand je dis intelligent, c'est pas une forme de culture ou une intelligence, voilà, mais est-ce qu'il faut quand même avoir une capacité intellectuelle un peu au-dessus?
Non, il faut être sapiosexuel.
Ok.
Il n'y a pas de jugement de mieux ou moins bien, il faut être sapiosexuel. Dans le BDSM, il y a différents courants, il y a des courants beaucoup plus, le courant primal, si je ne dis pas de bêtises, où on est plus sur des choses animales, plus brutales, plus directes. Puis il y a les gens qui sont sapiosexuels, qui aiment le sexe par le cerveau, hein, c'est la définition de sapiosexuel, c'est être excité d'abord par le cerveau avant par le corps. Je pense pas, c'est pas une question d'élitisme, c'est une question d'orientation sexuelle, tout simplement. Les femmes sont très souvent sapiosexuelles, la plupart du temps, plus que les hommes en tout cas, mais on a quand même toute une catégorie d'hommes qui sont aussi sapiosexuels. Et je pense que ça fait plus appel à ça qu'autre chose. Donc, c'est pas une question de niveau d'intelligence, mais d'orientation, en fait.
Ok.
Après, encore une fois, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit, mais je le dis dans toutes mes interventions sur Instagram. C'est mon avis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, il a osé dire ça. Oh, mais n'importe quoi. On n'est pas tous d'accord et on ne cherche pas à tous être d'accord. L'idée, c'est d'avoir...
Après, ici, c'est safe, voilà. Bienveillant, sans tabou, sans jugement. En théorie, les gens sont plutôt très cool.
Bon, ça va alors.
Ok, Alexandre, c'est très intéressant. Hein. Je savais que j'apprendrais plein de choses à vos côtés. Mais c'est vrai que je prends plaisir à écouter vos réponses parce que c'est hyper enrichissant.
Ça change.
Ça change et puis effectivement, moi j'ai le sentiment, et là on a la chance d'être en plus en phase, donc on se voit, etc. Vous êtes dans une décontraction totale de ce que vous racontez, quoi. Je veux dire, on sent que c'est hyper fluide pour vous, que ça fait partie de vous. Enfin,
c'est...
Alors ça a mis du temps, bien sûr.
J'en rigole, en fait, je retiens mon rire parce que c'est une décontraction qui m'a coûté extrêmement cher.
Ah, j'imagine.
Ça m'a coûté extrêmement cher. Et je le dis aussi pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte du prix à payer pour avoir cette décontraction. Ça coûte extrêmement cher dans sa vie sociale, dans sa vie privée. Il y a des prix à payer pour
bien
ça.
Sûr.
C'est pas gratuit. Mais j'en rigole aujourd'hui parce que je me dis que c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est si je voulais être quelqu'un d'autre, c'est pas possible, ils sont déjà tous pris. Donc autant être moi, être la meilleure version de moi, ça fait partie de moi, je vais l'assumer, tant pis si ça me cause des problèmes. Après tout, des problèmes on a tous dans nos vies. Moi, la chose qui me fait plaisir dans tout ce que c'est, parce qu'à chaque fois, peu importe où je passe, où je fais un live ou peu importe, il y a toujours une personne qui m'écoute et qui me dit oh, ça m'a fait du bien.
Oui.
Et d'entendre ça, moi j'estime que j'ai fait quelque chose de bien et même si pour certains je suis déviant, ça c'est le mot que je déteste entendre, c'est un mot que j'exècre profondément, j'estime pas être déviant, j'estime être moi-même, ça n'a rien à voir. S'il y a quelqu'un qui se dit, ah en écoutant ça, je me dis, ah finalement je vois un peu mieux qui je suis, eh ben j'estime qu'on a fait ce qu'on devait faire. Enfin, quand je dis on, c'est je, hein. J'estime que j'ai
apporté quelque chose.
Voilà. Tout le monde peut pas le faire. Je déconseille à tout le monde de le porter aussi ouvertement que je peux le faire. Sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous créer un autre compte pour interagir avec, voilà, avec cette communauté. Rendez-vous à des événements, à des munchs, rencontrez d'autres gens discrètement.
Alors, des munchs, ce que vous disiez, ça c'est un projet que vous avez.
Ouais.
C'est justement de réunir une communauté qui a un peu votre façon de penser, c'est-à-dire saine, plutôt ouverte et dans la discussion. Et des munchs, c'est des débats, c'est comment...
Alors un munch, il n'y a pas d'équivalent en français, on n'a pas vraiment de mots, on va dire c'est une sorte de... C'est à mi-chemin entre l'apéro, entre la discussion, entre... Nous, on est en train de travailler sur un événement comme ça où on va inviter les gens à se rencontrer. La seule différence, c'est que nous, on a une vision un peu élégante de la chose.
Mm-hmm.
Habituellement, ça se passe dans des restaurants ou dans des bars. Donc, les gens se retrouvent en petits comités, puis ils échangent sur leurs pratiques. Il n'y a pas de jeu, c'est-à-dire que tout le monde reste habillé, personne pratique devant tout le monde.
Tout reste vertical, quoi.
Vertical, voilà, c'est juste... Et encore, ça c'est un terme libertin, mais
oui, c'est vrai, je l'ai appris comme ça.
Nous, dans ces événements, bah, tout le monde discute, on est là pour discuter. Ah oui, toi tu as fait comme ça, et qu'est-ce que tu as ressenti ?
Mais vous lancez un débat, vous lancez un thème de soirée, ou c'est
Ça dépend.
Dans le networking
C'est un peu ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est vraiment intégré dans le BDSM, ou quand on a inclus ça dans notre vie, c'est très difficile après d'avoir des amis qui sont plus... Ouais. Qui sont pas dans le BDSM.
Mais c'est ce que j'allais vous demander après, c'est qu'après,
extrêmement compliqué.
Tout tourne autour de ça, quoi.
Oui,
comme vous disiez, comme on le disait, c'est un lifestyle. Donc effectivement, j'imagine que... Bon, après, vous avez des amis que vous avez sûrement gardés, mais
c'est
vrai que...
Très peu,
je comprends.
Très, très peu. Et j'en ai gardé un.
Ouais.
C'est très peu.
Qui est ouvert et tolérant.
Ouais. Mais à part ça, non. Et on a besoin d'événements comme ça pour rencontrer des gens qui sont comme nous. Comme nous, pas dans le sens où on n'est pas différent, dans le sens où on a un goût particulier pour certaines choses.
C'est ça.
Nous, notre vision, elle est un peu particulière. Nous, on veut faire ça, on est en train de travailler à faire ça dans des hôtels un peu de prestige, dans des endroits où on peut passer un moment agréable, où il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, mais les gens sont dans un cadre.
Un beau cadre.
Un beau cadre, parce que... Il y a un certain esthétisme aussi dans notre pratique. On aime les belles choses, on aime regarder, on est excité aussi avec les yeux.
Vous êtes esthète, oui. Donc vous aimez les.
Il y en a beaucoup. Ça, à un moment, je sais que les gens après ce podcast iront probablement voir mon compte Instagram parce qu'on me l'a beaucoup reproché d'être toujours dans des endroits élégants, assez haut de gamme. Et c'est pas une question d'argent, c'est une question de choix parce que tous les endroits haut de gamme, par exemple, je prends un exemple très simple, vous voulez boire un verre, tout le monde va aller dans un bar. Moi, je préfère un bar d'hôtel. Et c'est le même prix en fait. Vous allez dans un hôtel 4 ou 5 étoiles.
C'est parfois moins cher que les brasseries parisiennes hyper chères.
Ouais. Et vous allez boire, vous allez manger un club sandwich et vous allez boire un coca. Vous allez peut-être vous payer 30 balles. Mais vous avez un cadre somptueux,
ouais,
vous avez
un
service impeccable, et c'est pas beaucoup plus cher. Mmh. Et on m'a taxé, oui, mais tu mets toujours en avant ça, tu mets toujours en avant ça, mais moi, comme j'expliquais, moi, ma vision de la vie, je préfère ça, aller dans une cave avec une canette de coca. Et aujourd'hui, on a pas mal de gens qui aiment bien ça. Alors, attention, parce que je pense à plein de gens aussi qui pratiquent, tout le monde n'est pas là-dedans. Il y a des gens qui vont préférer justement quelque chose de plus... un vrai donjon.
Un peu glauque et un peu crade.
Alors, pas forcément glauque et crade, mais en tout cas un
j'en
donjon...
J'en ai eu qui aimait bien les trucs... Enfin, un micro qui aime bien quand
voilà.
c'est...
Parce que c'est un kink.
C'est un kink.
Parce que ça permet de libérer des instincts primaires, parce que ça permet de... Ça leur permet certaines choses.
Ça va avec la pratique, quoi.
Voilà, ça va avec la pratique. Je pense qu'il faut juste faire ce qui nous ressemble. Moi, les gens qui sont dans, je vais dire, notre communauté, c'est des gens qui ont les goûts similaires aux miens. Mais l'ensemble du BDSM n'est pas forcément là-dedans. Mais bon, voilà. Nous, en tout cas, on a prévision d'organiser des événements comme ça, soft, élégant, ouvert d'esprit, moderne, et proposer justement aussi à des gens qui sont curieux, qui veulent mettre un pied en avant, de venir rencontrer ça aussi. Parce que l'idée, ce n'est pas d'être fermé sur soi. Hein.
Comme vous l'expliquez très bien et on le comprend, c'est que tout passe aussi, beaucoup passe aussi par la discussion, la verbalisation, l'expression de ses désirs. Donc en fait, vaut-il mieux pas commencer par là et échanger avec des gens qui pratiquent ?
Déjà, quand vous êtes avec une personne qui vous regarde droit dans les yeux, qui dit « moi j'adore l'urologie, j'adore qu'on pisse dessus », ça va vous faire quelque chose. La première fois, ça fait bizarre, on se dit « wow, je suis où là ?» Et puis, ça va, vous avez peut-être bloqué au départ, et puis vous allez peut-être vous poser des questions et dire « ok, c'est quoi le truc que j'aime, le truc le plus, on va dire, intime, que j'ose pas dire parce que j'ai peur qu'on me juge ?» Et quand vous allez voir que vous êtes dans un univers où les gens ils vont vous dire des trucs et vous allez dire « en fait, tout le monde… »
Ça passe, ouais.
Ça passe, il n'y a pas de problème. Le sentiment de liberté, de souffler, de poser un poids à côté de la table en dire « ok, en fait, je suis normal, ça va, je suis pas en marge. »
Puis je suis comprise, je suis comprise.
L'être humain n'est pas fait pour être marginalisé. On est des êtres de sociabilité, on est là pour être sociaux. On a besoin de trouver des gens avec qui échanger nos parties, même les plus intimes, les plus secrètes, et de pouvoir dire, je sais pas, un homme qui aime s'habiller en femme, qui dans sa pratique sexuelle aime la féminisation. Allez dire ça n'importe où ailleurs, allez dire ça dans votre groupe d'amis, ça va pas passer.
Ça va être des grosses blagues pas drôles, quoi.
Voilà. Et alors, on a toujours, nous c'est ce qu'on dit dans l'univers BDSM, on a toujours un pote vanille bien lourd, bien gras, qui va faire une blague bien désagréable et qui va vous stigmatiser dans ce que vous êtes. Et les gens qui, en général, se mettent dans cette communauté, ou en tout cas qui vont dans ces événements, ils ont juste pas envie de ça.
Ils ont, au bout d'un moment, c'est ok.
Quand on prend en maturité, on a de moins en moins d'amis, en fait. Avec l'âge, on a de moins en moins d'amis, mais on a de plus en plus d'amis qualitatifs.
On garde les meilleurs.
Moi je sais qu'aujourd'hui j'ai envie d'avoir des amis quand je leur dis je parle de choses assez extrêmes, pas forcément aussi extrêmes que l'urologie, mais des choses plus simples. Par exemple, il n'y a pas de jugement, on n'est même pas là pour juger, ça passe tout seul et on passe à autre chose, et ça fait beaucoup de bien. Et très difficile de revenir à un univers après vanille, très prude,
Et puis les regards peuvent être insistants, peuvent être désagréables, peuvent être
Et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin aussi d'exprimer leur kink bizarre pour eux. Ils pensent bizarre. Et en fait, quand ils arrivent à l'univers, on leur dit c'est pas bizarre du tout. Hein. Y a plein de gens qui font. D'ailleurs, moi, je le fais comme ça. Moi, c'est la sensation, en tout cas, que j'ai ressentie quand j'ai mis les pieds dans cet univers.
Ça crée une vraie communauté d'entraide et de partage, quoi.
Ouais, de dire moi, j'ai un kink d'être attaché. J'ai un kink sur le shibari. J'ai un kink sur le latex. Il y a toute une communauté fétiche qui est proche aussi du BDSM, mais je ne suis pas la personne la mieux placée pour en parler. Demandez à Apoutine sur les réseaux sociaux, vous tapez Apoutine Chou, vous allez la trouver. C'est la diva du BDSM, qui est une grande amie, qui est sublime et qui transcende le latex.
Okay.
Si seulement les gens pouvaient arrêter de juger les gens qui sont différents, parce qu'il faut savoir qu'on est tous différents pour quelqu'un d'autre. Cette tolérance dont je parlais, parce que j'arrive à revenir à ce qu'on disait au début, cette tolérance dont je parlais, c'est ça que ça m'a appris, les qu'on pourrait considérer comme bizarres qui le sont pas, en fait. Moi, ça m'a appris à arrêter de juger. Quand on me dit un truc, je regarde surtout si la personne elle est heureuse avant. C'est-à-dire qu'on me dit ouais, moi j'aime ça, si je vois quelqu'un de triste, là je vais me poser des questions. Mais si je vois une personne épanouie, rayonnante, heureuse, tant mieux, en fait.
C'est ok.
Ouais, c'est ok, c'est ok. On devrait être plus souvent, plus nombreux à faire ça. Aujourd'hui, j'ai la chance d'en parler librement dans ce podcast qui est largement écouté, et merci beaucoup. Ça permet de montrer une autre vision. On a des gens très bien. Le BDSM c'est comment dire, ça rassemble des gens de tous les milieux. Et dans les gens que je côtoie, il y a des gens de tous les milieux. Et ça définit beaucoup d'autres actions dans leur vie. On réagit plus du tout pareil quand on est dans une relation DS ou dans le BDSM. On n'a plus la même approche de la vie et on la vit plus de la même manière.
Est-ce que vous avez des projets justement autour de ça, Alexandre, parce que vous me parliez effectivement de ces événements, donc quand la situation sanitaire sera terminée, on y arrive doucement, on y arrive. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des projets autour de tout ça? Parce que comme vous avez affiché et votre visage et votre lifestyle, aujourd'hui, effectivement, comme vous le disiez, c'est la direction que vous prenez, quoi, sans concession.
Alors, comme ça va me permettre de m'expliquer sur... mes kinks, ma sexualité devient mon business. Quand on fait le choix que j'ai fait et qu'on avance à visage découvert, d'ailleurs c'est ma plus grande arme, parce que vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez rien faire. Vous savez mon nom, vous pouvez taper mon nom sur internet, trouver toute ma vie, j'ai rien à cacher, moi je suis en paix avec qui je suis. À un moment, il faut quand même comprendre que quand on fait ce choix là il faut bien qu'on tire ses revenus de cette activité. On n'a pas le choix parce qu'on est estampillé, on est identifié dans ce secteur là et il faut bien aussi qu'on vive. Hein. Moi, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Je préfère vivre de champagne et...
De cuir et de sel.
Oui, oui. Et puis ça a un coût, tout ça. Mais globalement, il faut bien vivre. Et donc, oui, bah, moi, je transforme mes goûts particuliers en business. Et ce n'est pas l'attrait du BDSM. Comment dire? Le business, ce n'était pas à la base. Ce n'était pas base de mon attirance pour ça. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, bah, oui, je transforme ça en business parce qu'il faut que je vive. Mon ancienne, on me demande souvent, vous faisiez quoi avant? Je peux répondre. J'étais directeur d'une agence de publicité. J'étais publicitaire avant. J'ai perdu une grande partie de mon activité précédente et c'est pas grave. Tout va bien. Donc, aujourd'hui, bah, forcément, il faut bien que je trouve d'autres manières de vivre. Donc, bah, je développe tout un écosystème de business autour de ça.
Plein de gens qui aujourd'hui ont créé de leur passion, dans leur lifestyle, leur revenu.
Oui, mais il y a une problématique. Désolé pour ceux qui sont un peu moins sur la partie business, qui étaient plus sur la partie émotion et sentiments et sexualité.
Ça se répond.
Mais il y a une partie business et effectivement, je suis très transparent sur ce que je fais. D'ailleurs, quand vous me suivez sur Instagram, ma communauté m'accompagne dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a un shooting photo pour la marque de l'ingénieur. Vous venez avec nous, on vous montre, vous voyez tout ce que je fais et je m'en cache pas.
Oui, c'est très sincère, quoi.
Voilà, c'est très sincère, c'est authentique. Le maître mot sur le compte, c'est authentique. On vous montre la réalité telle qu'elle est. Ce qu'il faut savoir, c'est que le BDSM, c'est un mot qui est banni des réseaux sociaux. On est sur un mot qui est bloqué par Instagram, par Facebook et par TikTok. Aujourd'hui, mes deux comptes principaux sont sur Instagram et TikTok. TikTok, je suis encore un jeune TikToker. très jeune, enfin, vieux jeune TikToker.
C'est ce que j'allais dire.
Jeune TikToker, mais c'est pas grave.
Non, mais c'est très bien.
J'ai l'art de la punchline et moi, j'aime bien les moufouter.
Franchement, vous y... très bien.
Sur Instagram, aujourd'hui, j'affiche un des comptes qui a le plus d'abonnés autour de cette thématique. Mais on fait très attention parce qu'on peut vite être banni de la plateforme. Donc, on fait très attention à ce qu'on publie comme contenu. Nous, BDSM, qu'est-ce qu'on pourrait montrer?
C'est compliqué. Ouais.
Donc, les réseaux sociaux, c'est oui et non en même temps. Mm-hmm. Donc, tirer une activité purement de ça, c'est compliqué.
Oui, c'est un peu votre vitrine, mais ce n'est pas ça qui transforme, quoi.
Non. Aujourd'hui, moi, je ne m'en cache pas. Je suis un entrepreneur. C'est-à-dire que j'y réfléchis. Je ne travaille pas seul. J'y réfléchis à comment on peut transformer ce qu'on fait en réelle activité mercantile, parce qu'il faut qu'on fasse de l'argent.
Bien sûr.
Et il faut aussi comprendre que plus on va faire d'argent, plus on le réinvestit dans notre univers BDSM. C'est-à-dire que nous, on a une vision qui est communautaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines choses ne nous ont pas forcément rapporté d'argent, mais on les fait quand même parce que ça aide la communauté, ça aide des gens à s'assumer et ça aide à avoir une prise de parole qui peut être entendue. Donc les développements, ben, en termes de business, ben, on a commencé à les faire. On va faire de l'événementiel. On a une marque de lingerie.
Ouais, j'ai vu ça.
On travaille. Donc là, elle a été lancée il y a quelques mois. C'est assez récent et ça fonctionne bien.
C'est une marque de lingerie inclusive.
Body positive, dans le sens où tous les modèles qu'on a choisis, et je vous invite à aller sur le site, c'est très facile, c'est alexandrecontard.fr.
Je le mettrai.
Et vous pouvez aller voir que tous les modèles qu'on a choisis sont pas des modèles lingerie. Sont des femmes comme, j'allais dire vous et moi, mais surtout vous, des femmes qui n'ont pas pour profession
vous
d'être modèle.
Vous tout le monde pensait que j'étais mannequin.
Mais,
c'est raté.
Mais peut-être que vous êtes sur un site, on ne le sait pas. Moi, je vous ai vu en tout cas. Dans tous les cas, nous, on a l'ambition d'habiller les femmes pour qu'on les déshabille.
Oh, c'est beau.
Voilà, c'est ce qu'on veut faire et que les hommes qui les déshabillent, ou les femmes, aient du plaisir à les déshabiller. La lingerie qu'on fait, j'en profite parce que c'est un vrai projet qui nous a tenu à cœur, c'est-à-dire qu'au-delà d'être body positive,
ouais, ça a l'air sympa, comme tout.
C'est fabriqué en France, c'est de la dentelle de Calais, c'est fabriqué à la main, c'est du produit de qualité, c'est du produit haut de gamme à un prix qui est milieu de gamme. On s'est vraiment cassé la tête pour proposer quelque chose de beau. À l'image de ce qu'on essaie de faire. Cette lingerie, alors nous on fonctionne à un fonctionnement très particulier. On fonctionne par vente privée. On ouvre les ventes par session.
Et c'est très intelligent de faire ça parce que vous avez et la qualité, vous perdez pas d'argent et c'est donc ça peut durer sur le long terme.
C'est ça, et ouais. on est pérenne grâce à ça. Donc, et ça fonctionne bien. Ça c'est notre, je pense que ça va être notre plus grand développement pour les années futures. Mais c'est une marque qui s'inspire des codes du BDSM. Par exemple, sur toute la collection, la première collection qu'on a sortie, qui est la collection courtisane, on a une fleur de lys qui est cousue sur toutes les pièces. Mm-hmm. Parce que c'est, c'est, au-delà du symbole de la marque, c'est un symbole BDSM. Alors, tout le monde me demande pourquoi la fleur de lys.
Alors, c'est un peu la fleur des rois.
Oui, alors, il y a plein d'explications possibles. La fleur de lys, on la trouve dans plein de choses, même dans sur le logo de la ville de Lille d'où je viens. et pourtant, ils ne sont pas BDSM à ce que je sache. Je ne crois pas. Par contre, la fleur de lys, pourquoi on a choisi ça? Parce qu'il y a deux symboles BDSM globalement, pour faire simple. Il y a le triskel et il y a la fleur de lys. Le triskel est un symbole qui ne me convient pas ou dans lequel je ne me retrouve pas, mais la fleur de lys, je m'y retrouve plus parce qu'il y a ce côté un peu royal, un peu...
C'est élégant.
C'est élégant. Et dans un couple DS, on a un roi et une reine, tout simplement. Ouais. Voilà. C'est un petit truc romantique, mais c'est vrai. Moi, j'ai une personne que je connais sur les réseaux et je vais passer un bonjour à Claudine qui va l'écouter. Claudine, elle a plus de 60 ans, si je ne dis pas de bêtises, une soixantaine d'années. Et son homme, ils sont dans une relation BD. C'est des gens qu'on ne voit pas, c'est la majorité silencieuse, mais ils sont là. Et moi, je suis toujours touché parce que je sais qu'elle l'écoute et elle va l'entendre parce qu'elle est très engagée sur les réseaux sociaux. Elle appelle son homme mon roi. Et je trouve ça très beau. Et j'aimerais qu'on entende plus ça dans les couples. Voilà. Donc, on a choisi ce symbole et je trouve qu'il est bien et fonctionne bien.
Et on fait des petits clins d'œil dans vos collections pour justement que ça parle à la majorité, mais qu'aussi, si on pratique le BDSM... On se sente bien dedans.
On se sente bien dedans. Nos pièces sont élégantes. On veut de l'élégance.
Oui, c'est vrai. Hein, c'est tout le monde peut porter ça. Enfin, j'ai regardé ce que vous faisiez.
C'est élégant.
C'est pas du tout connoté, quoi. C'est juste. Enfin, c'est élégant, c'est chic, c'est sexy.
On veut que ça soit le petit piment qui vienne
dans la vanille.
Voilà, c'est ça. Et ça nous va bien. Donc, pour clôturer là-dessus, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas. On est obligé de faire ça parce que sinon on peut pas s'en sortir. Quand on a choisi de porter ouvertement ça, il faut un moment qu'on porte ouvertement un business qui est lié à ça, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. L'idée, c'est d'avoir une vraie prise sur le monde du business.
En tout cas, de diversifier l'activité. Quoi.
Et quand on me demande ce que je fais, alors moi, je me présente comme étant un influenceur, comme au début de cette interview, de cet échange. Moi, j'ai plus de soucis quand je discute avec un en disant, moi, je suis dans l'univers du BDSM, je parle d'érotisme, de sexualité, et c'est les autres qui sont gênés. Mais moi, je ne suis pas gêné, puisque aujourd'hui, j'estime faire quelque chose de positif.
Alexandre, pour conclure cet entretien, je voulais vous citer avant de vous laisser... le mot de la fin, parce que généralement mes invités concluent avec un mot de la fin. Je voulais citer cette phrase que j'ai lue chez vous, que j'ai trouvée très intéressante. Un maître doit avoir confiance en lui pour cadrer sa soumise et de l'empathie pour ne pas devenir un tortionnaire.
C'est vrai que j'ai écrit ça.
Et j'ai trouvé ça très joli.
Eh bien, merci beaucoup. Je suis content que ça soit une phrase dont je me souviens. Parce que souvent, on dit ça aux gens interviewés, vous avez dit ça, et les gens disent « Ah
pas
bon ?»
du tout.
Non, je m'en souviens très bien. Effectivement, on m'a posé cette question à savoir si un maître devait avoir de l'empathie, parce qu'on voit souvent les maîtres comme des tortionnaires, ou en tout cas des gens dénués de sentiments, qui appliquent des châtiments, qui donnent des punitions, une vision très sévère et pleine de discipline. Et effectivement, sans empathie, le BDSM devient quelque chose de dangereux. Je pense qu'il faut avoir de l'empathie quand on est un maître ou une maîtresse. Il faut savoir ressentir l'autre, il faut aimer l'autre, il faut aimer les gens. Il faut aimer la personne avec qui on est. Alors, quand je parle d'amour, ça peut être de l'affection. Parce que tout le monde ne pratique pas le BDSM avec de l'amour. Mais en tout cas, avoir aimer l'humain qui est en face de soi, même si on n'est pas dans une relation d'amour. Et l'empathie, ça évite de tomber sur un pervers narcissique ou quelqu'un de tortionnaire. Donc, je pense que ça fait la différence entre l'empathie fait la... On m'a posé la question, est-ce que je suis empathique? Est-ce que je peux devenir un bon maître? Et moi, je réponds, tu vas devenir meilleur que les autres maîtres. Et alors qu'on voit ça comme un handicap, alors que pas du tout.
Ok, monsieur, quel sera le mot de la fin de cet entretien?
Assumez vos kinks.
Merci beaucoup, Alexandre.
Merci.
Merci. Merci pour votre écoute et merci infiniment à Alexandre Contard pour sa disponibilité et sa sincérité. C'était un vrai plaisir que de vous rencontrer, d'avoir cet échange avec vous et d'avoir votre avis, votre histoire, votre parcours. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous avez pensé de notre discussion. C'est toujours un plaisir que de vous lire par mail, par DM. Dans tous les cas, c'est chouette d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à laisser un avis et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet de faire grandir et grandir le podcast. Et ça, c'est grâce à vous. Donc vraiment, merci pour votre soutien. Pour cet été, je vous propose 4 épisodes. Ce sont des interviews d'hommes. Jusque-là, ce n'est pas très étonnant. Toutefois, ce sera un format un peu plus court et surtout, ce seront des hommes qui travaillent dans le business de la sexualité. J'espère que ça vous plaira. J'ai trouvé ça super intéressant d'aller à la rencontre de ces hommes. Je vous dis donc à très bientôt cet été dans les épisodes spéciaux de On the Verge. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.